Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'agenda de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 5 février 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Sanctions US, le président Rouhani qualifie de victoire très brillante le verdict du tribunal de l'AE. Décision de la justice belge contre un diplomate iranien de Téhéran la condamne fermement. Damas appelle le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour empêcher les agressions israéliennes répétées contre le territoire syrien. Joe Biden met fin au soutien américain à l'offensive de la coalition d'agression saoudienne contre le Yémen. Ansar Allah y réagit. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. S'exprimant jeudi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de 5 grands projets du ministère iranien de l'industrie, des mines et du commerce, le président iranien Hassan Rouhani qualifie de belle et très brillante victoire de la grande nation iranienne contre une superpuissance. La décision de la Cour internationale de justice, CIJ, qui s'est déclarée mercredi de 3 février, compétente pour recevoir la demande de Téhéran d'annuler les sanctions rétablies par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Hassan Rouhani a déclaré, bien que les États-Unis aient mobilisé des milliers d'experts et de spécialistes pour réussir cette guerre politique, la nation iranienne, en s'appuyant sur ses avocats et diplomates, a su gagner l'affaire. Il est désormais clair que la grande nation d'Iran, avec le soutien de son peuple, instruit dans tous les domaines, y compris la diplomatie, le droit et la technologie, peut remporter de grands succès. Et victoire, s'est félicité le président iranien Hassan Rouhani. La diplomatie iranienne a condamné par la voix de son porte-parole la décision d'un tribunal belge qui a condamné à 20 ans de prison le diplomate iranien Assadollah Assadi. Réagissant à un verdict par le tribunal d'Anvers au nord de la Belgique contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien en poste en Autriche, le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné par la voix de son porte-parole Saïd Khatib Zadeh la procédure illégale et injustifiable de la justice belge. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Iran et l'Italie réaffirment la nécessité d'élargir les relations parlementaires bilatérales. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Rome, Hamid Bayat, a rencontré le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants italienne et les deux parties ont souligné la nécessité d'élargir les relations parlementaires. La rencontre était également axée sur les relations Téhéran-Rome. Le plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015, les questions régionales et internationales a rapporté l'agence IRNA. Hamid Bayat, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, notant que les relations entre Téhéran et Rome remontent aux civilisations des deux pays, a déclaré « Cette année, l'Iran et l'Italie célèbrent le 160e anniversaire de leurs relations diplomatiques. C'est une excellente occasion, tenant compte des récentes évolutions internationales, d'élargir les relations entre les deux pays, y compris dans la sphère parlementaire. » Pour sa part, Piero Fassino, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés italiennes, a évoqué les bonnes relations et coopérations entre les deux pays dans divers domaines, dont culturels et archéologiques, avant de qualifier de l'Iran de pays millénaire et de puissance régionale. Il a également réitéré le soutien de l'Italie à l'accord international sur le nucléaire iranien et qualifié d'erreur le retrait unilatéral de Donald Trump de cet accord nucléaire de 2015. La Syrie appelle le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour empêcher les agressions israéliennes répétées contre son territoire. La Syrie a appelé le Conseil de sécurité à assumer de ses responsabilités dans le cadre de la charte de l'ONU et à prendre des mesures fermes et immédiates pour empêcher la répétition des agressions israéliennes terroristes contre les territoires syriens. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que les autorités d'occupation israéliennes avaient mené mercredi soir une agression contre le territoire syrien et tiré des missiles à partir du Golan syrien occupé vers la région sud. Le ministère a fait savoir qu'Israël poursuit ses agressions graves sous de faux prétextes sécuritaires dans le cadre d'une politique méthodique justifié par ses responsables sous de faux prétextes sécuritaires, ajoutant que ces prétextes ne trompent personne et ne seront pas une couverture pour justifier ces comportements terroristes. Cet ennemi continue à occuper la terre syrienne sans aucune mesure prise par l'ONU ni par la communauté internationale, a dit le ministère syrien des Affaires étrangères, qui a assuré que la Syrie poursuivra sa ligne constante et de principe de lutte contre le terrorisme, dont celui soutenu par Israël et ses alliés, et que son armée est résolue plus que jamais à lutter contre les réseaux terroristes partout sur les territoires syriens pour les empêcher de propager le terrorisme dans la région et de prendre pour cible les civils innocents. Joe Biden met fin au soutien militaire américain à l'offensive d'agression saoudienne contre le Yémen. Cette guerre doit cesser, a-t-il dit, confirmant la nomination d'un diplomate chevronné comme émissaire pour le Yémen. Et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes, a-t-il souligné. En y réagissant, le membre du Conseil politique suprême d'Ansar Allah du Yémen, Mohamed Ali Al-Houssi, a déclaré « Toute initiative qui ne mettra pas fin au blocus à l'agression saoudienne est formalité et nous n'y prêtons donc aucune attention. » De son côté, le porte-parole d'Ansar Allah, Mohamed Abdel Salam, a affirmé que la véritable paix ne sera pas rétablie au Yémen qu'après l'arrêt de l'agression militaire et la levée du blocus et d'ajouter l'agression et le blocus ont durement échoué face à la persévérance légendaire de notre cher peuple. Eh bien, chers amis, c'est touché à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Nous allons vous présenter dans quelques secondes notre commentaire politique. Décision de la justice belge contre un diplomate iranien. Téhéran y réagit fermement, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. La diplomatie iranienne a condamné par la voix de son porte-parole la décision d'un tribunal belge qui a condamné à 20 ans de prison le diplomate iranien Assadollah Assadi. Réagissant à un verdict émis par le tribunal d'Anvers, situé au nord de la Belgique, contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien en poste en Autriche, le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné par la voix de son porte-parole Saïd Khatibzadeh, la procédure illégale et injustifiable de la justice belge. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, toutes les étapes de la détention de M. Assadi, la procédure judiciaire et la récente condamnation sont illégales et en violation flagrante du droit international, en particulier de la Convention de Vienne de 1962-1 sur les relations diplomatiques. La République islamique d'Iran ne reconnaît en aucune façon ce verdict, a déclaré Saïd Khatibzadeh. Malheureusement, la Belgique et certains pays européens, influés par la machination du groupe terroriste et hostile, le Mounafirine actif sur le sol européen, ont procédé à une action si illégale et injustifiable, a souligné encore le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Par conséquent, certains pays doivent répondre de leurs actes pour la violation flagrante des droits du diplomate de notre pays, y compris des conditions inhumaines auxquelles M. Assadi était confronté pendant sa détention en Allemagne et en Belgique, insistait le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La République islamique d'Iran se réserve le droit de recourir à tous les moyens juridiques et diplomatiques possibles pour faire valoir les droits de M. Assadi et pour tenir responsable les gouvernements qui ont violé leurs obligations internationales, a précisé encore le porte-parole de la diplomatie iranienne. Arrêté en Allemagne au moment où il passait ses vacances, le diplomate iranien avait été remis en octobre 2018 à la Belgique suite à un mandat délivré par l'Union européenne à la demande de Bruxelles. Le procureur général allemand avait prétendu qu'il avait engagé un couple vivant à Anvers, en Belgique, à faire sauter la réunion annuelle du groupe terroriste Mujahidine du peuple, un groupe terroriste et illégitime, très honni par le peuple iranien. Plus de 17 000 civils iraniens, pour la plupart des citoyens ordinaires, ont été assassinés par ce groupuscule terroriste qui se nomme l'Organisation des Moudjahidines du Peuple.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu dans le cadre d'une tournée régionale la semaine dernière en Azerbaïdjan, en Arménie, en Russie, en Géorgie, en Turquie. À Bakou, M. Zarif a rencontré le vice-premier ministre azerbaïdjanais et a réitéré la volonté de la République islamique d'Iran de participer à la reconstruction de la zone de libre-échange de l'Azerbaïdjan. En Russie, le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, et les deux parties ont signé un accord de coopération commune dans le domaine de la cybersécurité. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Zarif, Sergueï Lavrov s'est penché sur l'accord nucléaire, une éventuelle réintégration de l'accord par les États-Unis, et a souligné que les relations Téhéran-Moscou étaient indépendantes des tendances ambitieuses de Washington. Et en Turquie, M. Zarif a annoncé qu'une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Iran et de l'Azerbaïdjan aura prochainement lieu à Téhéran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette tournée régionale de M. Zarif, quelques jours après l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden, la formation de nouvelles alliances régionales, notamment en Asie centrale et dans le Caucase sud, contre l'axe États-Unis, OTAN, Israël, et bien entendu la perspective de nouvelles évolutions. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Entre le dimanche 24 janvier et le vendredi 29 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a effectué une tournée régionale le conduisant en République d'Azerbaïdjan, en Russie, en Arménie, en Géorgie et en Turquie, pour s'entretenir avec ses homologues ainsi que d'autres responsables des pays concernés. C'est le Caucase Sud, zone stratégique située au confluent des routes énergétiques, qu'aucun acteur régional international ne peut ignorer. Les entretiens de Zarif ont ainsi été axés sur le renforcement d'une convergence régionale, chose contre quoi l'axe US-Israël-OTAN fait tout, puisque c'est là que réside la clé du succès de leur plan de déstabilisation, de leur projet de révolution colorée, bref, d'un retour du statu quo hanté quand USA, l'OTAN faisaient la pluie et le beau temps dans l'arrière-cour irano-sino-russe. Au fait, à l'heure des changements de couleur à Washington, les craintes des coups fourrés démocrates que sont la Turquie d'Erdogan, la classe dirigeante pro-Trump de la Géorgie, l'Iran a voulu rappeler qu'il est faux de compter sur des pays situés à des milliers de kilomètres du Caucase, alors que la force se trouve toujours dans l'unité avec ses voisins. Une coopération assise qui unirait l'Iran, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie est la bienvenue, surtout que la saignée du Haut-Karabakh a bien prouvé aux populations des pays concernés à quel point l'Empire US et ses affidés font peu de cas des peuples de la région, de leur présent, de leur avenir, et comment ils se jouent de leur paix et de leur sécurité, ne voyant en eux que des cobayes des laboratoires militaires et des terrains d'essai des usines d'armement. Les entretiens de Zarif ne se sont pas limités à des sujets comme la coopération et la convergence régionale. L'accord nucléaire de 2015 a dominé une bonne partie des discussions entre les chefs de la diplomatie iranienne et russe à Moscou. Ce qui nous importe quant à la nouvelle administration américaine est que si Joe Biden lève les sanctions que Trump avait imposées à la République islamique d'Iran, a dit à Moscou Zarif. Il a souligné que si la partie américaine annulait les sanctions anti-iraniennes, et qu'elle cessait d'entraver les coopérations économiques entre Téhéran et d'autres pays, l'Iran lui aussi retournerait à ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Ainsi, les sirènes occidentales ne parviendront plus à ensommeiller Téhéran, qui s'est érigé en puissance régionale, voire en pivot des alliances nouvelles.
Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français, et depuis Moscou, M. Mikhail Egorov, analyste chroniqueur à l'agence Observateur Continental. M. Egorov, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour m'avoir invité et je salue également M. Dortillier.
Monsieur Egorov, alors une évolution importante en Asie centrale et dans le Caucase Sud, la tournée régionale du chef de la diplomatie iranienne, ses déplacements en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Russie et en Turquie. Bien sûr, lors de ses déplacements et lors de ses entretiens avec les responsables de ces pays, M. Zarif a souligné l'importance d'une coopération régionale étroite, d'une synergie régionale pour promouvoir la stabilité, mais aussi pour prévenir, en effet, de nouveaux conflits dans la région. Dans quelle mesure, formation de telles alliances pourrait, en effet, serait bénéfique pour toute la région et pourrait contrer les velléités interventionnistes et expansionnistes des puissances extra-régionales.
Merci pour cette question. Tout d'abord, je pense qu'effectivement, ce serait fortement saluable, non seulement pour toute la région et pour le grand espace eurasiatique dans son ensemble. Je pense que ce serait également très salutaire pour toute la communauté internationale, dans le vrai sens du terme de la communauté internationale. Je pense que cette tournée de M. Zarif dans les pays qui ont concerné, elle signifie plusieurs choses. Tout d'abord que l'Iran est une force régionale indéniable, et comme je l'ai souvent dit, je pense qu'aujourd'hui l'Iran peut même être considéré comme une puissance internationale montante, sachant que l'Iran a évidemment une influence certaine dans la région qui le concerne, mais l'Iran a aussi des relations fortes à d'autres endroits du monde, notamment en Amérique latine, avec nombre de pays d'Amérique latine qui résistent également aux velléités de Washington. Deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que effectivement, on a bien vu que toute cette rhétorique hostile, et je dirais même cette propagande hostile à la République islamique d'Iran, reste que de la propagande. Parce que malgré tout ce que Washington aurait pu déclarer, que l'économie iranienne serait asphyxiée, que l'Iran est isolé, évidemment dans cela il est activement soutenu par Tel Aviv et un certain nombre d'autres pays, mais surtout les trois pays qu'on peut citer, c'est les USA, Israël et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui on voit bien qu'il n'en est rien. L'influence iranienne ne baisse pas, au contraire elle s'élargit, et cette tournée l'a d'ailleurs confirmé. Surtout qu'on a vu effectivement que beaucoup de questions d'intérêt commun ont été abordées et que la solidarité, par exemple, de la Russie sur nombre de questions a été une nouvelle fois confirmée, répétée par le chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov. On a vu également en Turquie où le chef de la diplomatie turque, Mevlut Çavuşoğlu, a également dit que face aux sanctions US, les deux pays, à savoir l'Iran et la Turquie, vont continuer à accroître la coopération économique, les projets économiques bilatéraux. Il a également appelé Washington à revenir à l'accord de Vienne et à le respecter. Donc on voit bien que l'Iran est tout sauf isolé, l'influence iranienne se maintient et s'élargit. Et le troisième point très important dans le cadre de cette tournée, je pense qu'évidemment, on voit bien que la véritable notion de communauté internationale, je reviens encore sur ce sujet, elle se construit en Eurasie. C'est-à-dire que l'Occident a beau parler comme étant, l'Occident a beau s'autoproclamer comme étant le porte-parole de la communauté internationale qu'il ne représente aucunement, on voit bien que la véritable communauté internationale, elle se construit en Eurasie de par le point démographique, de par le point économique qui ne cesse d'augmenter, de par le point industriel et de par aussi la capacité de riposte en termes de défense. Et l'Iran joue un rôle très important dans ce cadre-là et plus généralement dans le cadre multipolaire. Je pense qu'en ce sens, c'est très positif et cette tournée le confirme amplement.
Merci infiniment pour ces éclairages, M. Egorov, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. M. le professeur, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, M. Radamanté, bonjour, et à votre cher invité de Moscou.
M. le professeur, M. Egorov a souligné, bien sûr, la place importante est crucial dans la République islamique d'Iran, dans les évolutions régionales. Dans quelle mesure, bien sûr, eu égard à cette tournée importante de M. Zarif, dans quelle mesure l'Iran s'impose aujourd'hui comme un pivot de nouvelles alliances régionales.
Eh bien, comme votre correspondant l'a dit, en effet, il s'agit là d'une grande importance, d'une grande signification internationale d'abord, et sur ce plan régional qui reflète justement une sorte de, non pas modification, mais progrès, disons, ou peut-on dire fixation même de ce qu'on pourrait dire du progrès technique dans cette région, qui est appelée bien sûr à métamorphoser, disons, si j'ai pu dire, l'ensemble des relations internationales. Je dois dire que ce voyage met en relief les capacités, la principale capacité qui nous semble être celle de l'Iran aujourd'hui, qui n'est pas celle d'exportateur de matières premières seulement, mais capacités technologiques. En ce sens, disons, c'est une satisfaction, d'ailleurs, sur un plan très général, de voir qu'un pays accroît sa puissance essentiellement par sa science, sa technologie, son savoir-faire. Et c'est lui qui permet à la fois de maîtriser, bien sûr, de mettre en valeur chez lui et chez ses voisins les capacités, disons, qu'offre la nature. Je prendrai l'exemple de l'Azerbaïdjan, qui est très riche, comme vous le savez, en pétrole et en matière et en gaz en particulier, et qui, justement, étant amené par une loi naturelle à un développement intérieur très important de sa société, a dû, par exemple, en 2017, c'est un point de détail, mais qui a son importance, importer de Gazprom un certain nombre de capacités gazières, alors que lui-même en est très riche. Cela signifie donc que cette question technologique est au centre de tout. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, disons, à maîtriser ce que l'on a, non pas l'économiser, mais disons le rationaliser. Et de ce point de vue, c'est cet apport rationnel, si je puis dire, d'un point de vue technologique, que l'Iran offre. Nous savons ici qu'il avait ceci contenu chez lui. Nous pensions bien sûr que toutes les mesures que les cercles américains, américano-sionistes et autres, disons, ont voulu obtenir par le blocus, disons, c'est-à-dire ces contraintes, n'ont pas du tout affecté. Au contraire, ont, à notre avis, donné une dynamique et un essor beaucoup plus grand à cette volonté technique, car la technologie est essentiellement une affaire de volonté, de capacité et de volonté d'exercice. Ceci, disons, nous permet aussi de voir de notre, je conclurai là-dessus, d'une autre façon, ce que l'on a dit être le, ce que votre correspondant a bien dit à Moscou, cette capacité de l'Eurasie. On parle de l'Eurasie, on parle aussi de la route de la soie chinoise. Bon, tout ceci reste, disons, un peu superficiel, si l'on ne voit pas qu'il s'agit là, bien sûr, d'un développement, d'une volonté de développement également des pays caucasiens qui ont été, disons, endormis par différents facteurs et qui, bien sûr, disons, doivent permettre à l'Europe, puisque nous parlons depuis l'Europe ici, de faire un examen de conscience. C'est-à-dire que l'Europe doit comprendre ce que disait en philosophie en français au XVIIe siècle Leibniz, que nous venons de l'Asie aussi, que nous sommes originaires de l'Asie, et donc considérés comme des parents proches, disons, ou lointains, mais des parents, disons, qui se rapprochent d'eux, ces peuples d'Asie centrale. Et je crois que c'est une conscience qui n'est pas tout à fait claire chez nous, en particulier chez ceux qui en restent encore aux vieux, disons, préjugés de la vie d'après-guerre, vous voyez, et donc qui doivent modifier, bien sûr, leur action. Je crois que cette modification doit provenir d'une initiative. Cette initiative, l'Iran l'a donnée, et je crois que les autres peuples du Caucase, la Turquie, etc., sera bien sûr influencée par cette démarche, qui est une démarche à long terme, voyez-vous, et qui, bien sûr, comme l'a dit, je répète encore notre correspondant, que je remercie très humblement, a une signification non pas régionale, mais internationale.
Merci pour ces précisions, monsieur le professeur, restez avec nous. Monsieur Egorov, selon de nombreux observateurs, le mot d'ordre de cette tournée serait entre autres de créer une dynamique à 6 propre à renforcer la stabilité d'une région stratégique limitrophe de la Russie, de la Chine et de l'Iran. comment cette dynamique ASIS, cette initiative et ces interactions régionales seraient perçues par la nouvelle administration américaine?
Ben, vous savez, cette question est très légitime et je tiens également à remercier le professeur Dortiguet parce qu'il a dit beaucoup de choses justes. Je le remercie pour cela. Je pense aussi que c'est dans l'intérêt aussi bien des peuples d'Eurasie que des peuples européens, disons de la partie occidentale de l'Europe, de la vieille Europe comme on l'appelle, mais en tout cas qui sont des civilisations indéniables. Évidemment, je pense que c'est dans l'intérêt commun de développer les relations et de forger des alliances, même si on sait que les élites concernées y sont opposées, car étant assujetties à Washington. Maintenant, concernant proprement dit votre question, alors écoutez, c'est sûr que cela, toutes ces initiatives ne seront pas bien accueillie à Washington. On voit bien avec quelle haine, je pense que c'est le mot aujourd'hui, l'establishment américain, quelle que soit la couleur, observe les processus d'intégration dans l'espace eurasiatique, dans son ensemble, que ce soit dans le cadre, par exemple, qui concerne proprement dit cette coopération entre la Russie, la Turquie, l'Iran et d'autres peuples du Caucase Sud. On voit bien ça dans le cadre intégrationnel avec les pays d'Asie centrale. On le voit dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. On le voit également dans le cadre de l'Union économique eurasiatique que l'élite états-unienne appelle tout simplement une renaissance de l'URSS, à laquelle ils sont fortement opposés sans se poser la question si les peuples concernés soutiennent ce processus. Et on sait que les peuples concernés, dans leur large majorité, soutiennent ces processus. Notamment en Ouzbékistan, récemment, il y a quelques mois, il y avait eu un sondage d'opinion, est-ce que l'Ouzbékistan devrait rejoindre l'Union économique eurasiatique, et les trois quarts des répondants, parmi eux beaucoup de jeunes, ont répondu par le favorable. Donc on pouvait se dire qu'il y a des personnes nostalgiques de l'Union soviétique, eh bien non, il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes, qui ont également soutenu cette initiative. Donc c'est voulu par les peuples. Et bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le très important, et en ce sens les efforts que font l'Iran, la Chine, la Russie, sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils contribuent à mettre en valeur cette volonté des peuples concernés, et cette détermination qui les caractérise ne peut être stoppée par toutes les tentatives de bloquer, de mettre des bâtons dans les roues de l'establishment occidental, atlantiste, états-unien plus particulièrement. Je pense que c'est très important. En tout cas, cette interaction ASIS, je pense qu'elle est également très importante, même si ça a été d'ailleurs rappelé dans le reportage du début de l'émission, la Géorgie, c'est quand même un cas plus compliqué. On sait que l'establishment géorgien est orienté sur l'Occident, sur Washington, même si je ne pense pas que cela soit éternel, mais en tout cas, la réalité actuelle est ce qu'elle est. Mais dans le cas plus proprement dit de l'Iran, de la Russie, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et même de la Turquie aussi, parce que la Turquie, encore une fois, même si elle est membre de l'OTAN, on voit bien qu'elle adopte des positions beaucoup plus indépendantes et souveraines dans le cadre de son interaction avec la Russie comme avec l'Iran, même s'il y a aussi des divergences, mais il y a aussi beaucoup de convergences. Ça, je pense que c'est un axe aussi très fortement à développer et qui va largement contribuer au renforcement aussi bien de l'Eurasie dans son ensemble que du concept multipolaire du monde de façon générale, malgré toute l'opposition des élites atlantistes qui sera poursuivie, j'en suis certain, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre cette marche en avant, j'en suis certain.
Merci encore. Monsieur Garoff, une toute dernière question à monsieur le professeur Dortiguet. Monsieur Dortiguet, à l'heure des changements de couleur à Washington, ces initiatives régionales, ces alliances régionales, cette volonté des peuples de la région, comme disait d'ailleurs à juste titre Monsieur Igorov. Alors, avec tout cela, à quelle réaction faudrait-il s'attendre de la part de l'administration Biden?
Eh bien, oui, en effet. Je remercie Monsieur Igorov de ses appréciations et de ses jugements sur la question régionale et internationale. Je pense que l'administration américaine, disons, n'est pas du tout dans une situation de conquérante, mais de réaction, si je puis dire, dans tous les sens du terme, aux événements. Et qu'elle cherchera à maintenir, non pas du tout une indépendance, des intérêts proprement américains, mais ce qu'on peut appeler le statu quo, qui date de la Seconde Guerre mondiale, aux premières et surtout Seconde Guerre mondiale, à savoir, disons, essayer de maintenir ces États en question dans une sorte de demi-somnolence. Exactement ce qui se passait au moment justement de l'URSS. Et ceci n'est pas du tout, je dis ça sans aucune satire, vous savez, avec vraiment spontanéité, je remercie votre correspondant russe de dire cela, car ce n'est pas du tout le cas. Il est possible que l'administration américaine, soulève une sorte de fantôme, voyez-vous, une menace contre l'Occident. Il ne s'agit pas du tout de cela. Je crois qu'elle restera sur la défensive, mais j'ajouterai qu'il faut se méfier justement d'organisations comme ce qu'on appelle l'État profond ou autre, enfin aux États-Unis. Ces gens-là ne peuvent, disons, réagir par une agressivité, démente, disons, ou un peu assez démente, à cette nouvelle prise de conscience. Et c'est pour cela qu'il faut à la fois se féliciter de cette initiative iranienne, mais en même temps que tous les peuples, y compris surtout la Turquie, qui est visée, en effet, comme vous l'avez dit, comme l'a dit notre correspondant, par l'OTAN, etc., qui suscite des colères contre elle, de la part de nos milieux otanesques, nos milieux occidentaux, il faut se méfier quand même de ces prendre garde, disons, parce que cela ne débouche pas sur des aventures militaires, sans lendemain peut-être, mais qui pourraient bien sûr être néfastes, bien sûr, pendant très longtemps, à nos relations internationales. Je crois qu'il y aura une réaction de la part de l'administration Biden, mais je crois qu'elle ne peut rien contre le devenir historique.
Merci, monsieur le professeur. Il nous reste 2 minutes, monsieur Egorov. Quelle est l'importance de ces interactions régionales sur l'établissement des couloirs de transit sud-nord et sud-ouest?
Je pense que très important, d'autant plus que vous avez soulevé au début du reportage que cela contribue aux nouvelles routes de la soie promues par la Chine. Donc le cadre régional ouvre également de très grandes portes à la Chine qui observe et qui participe aussi activement à cette intégration, à cette grande intégration eurasienne, notamment via l'Organisation de coopération de Shanghai, où Pékin avec la Russie joue un rôle très important, sachant que l'Iran est d'ailleurs membre observateur, et on espère que le plus rapidement possible, l'Iran va devenir membre à part entière de cette organisation, de cette grande organisation eurasienne, et qui, je pense, elle aussi, représente pleinement la véritable notion de communauté internationale, du point de vue démographique, économique, militaire, et du point de vue civilisationnel également, c'est important de le rappeler. Donc je pense qu'effectivement cette interaction, et notamment on l'a vu dans le cadre de la tournée de M. Zarif dans les pays qui ont été cités, je pense que ça contribue également beaucoup aux échanges commerciaux et notamment à la facilitation des voies logistiques qui existent déjà et qui seront amenées à se créer en termes de nouvelles voies et à se renforcer. Et je pense qu'effectivement, plus il y aura encore d'interactions du point de vue économique et commercial, plus cela renforcera l'alliance politique, géopolitique, militaire. Et à partir de ce moment-là, il sera très compliqué, j'en suis certain, pour les opposants à cette intégration, à ce concept du monde multipolaire, il sera très très difficile de pouvoir bloquer le processus en cours. Donc je pense qu'effectivement, les voies que vous avez mentionnées, les voies commerciales, les voies logistiques, sont très importantes également dans ce processus qui a été abordé aujourd'hui.
Mikhail Egorov, analyste chroniqueur à l'Agence Observateur Continental depuis Moscou, monsieur le professeur Pierre Dortiguev, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
En mars 2020, l'Institut français des relations internationales, IFRI, a publié une étude sur le dispositif militaire français dans les départements et collectivités d'outre-mer. L'IFRI a constaté que ce dernier, amoindri par plus d'une décennie de coupes budgétaires, connaissait une tension importante sur des moyens taillés au plus juste. Quelles sont les raisons de ces coupes budgétaires et comment en analyser les conséquences? Dans le contexte actuel de crise budgétaire au sein des forces armées françaises, comment justifier les récents aventurismes de la marine française en Méditerranée et au Moyen-Orient? Philippe Hugon, analyste et reporter de guerre, s'exprime sur le sujet.
Oui, alors bon, il est vrai que les dom-toms subissent des coupes budgétaires. Elles sont pas seulement militaires, elles sont un petit peu dans tous les domaines, hein. Il faut dire que la situation financière en Europe et plus spécifiquement en France est quand même une situation un peu délicate financièrement. Maintenant, sur les risques d'attentats dans les dom-toms, moi je n'y crois pas beaucoup. Alors bien sûr, ça peut arriver et il est normal que les agences gouvernementales développe des stratégies en cas d'attaque. D'une part, il y a le faible risque d'attentat dans tous ces territoires d'outre-mer, et d'autre part, la France, financièrement, n'a plus les moyens de pouvoir payer des gens sur des territoires d'outre-mer dont l'utilité serait vraiment remise en cause, mais c'est surtout le problème budgétaire, ce qui est d'ailleurs je dirais pour tous les pays hors Union européenne, hors monde occidental, je dirais une certaine chance, puisque on va voir également toutes les grandes puissances comme les États-Unis où vont réduire leurs opérations parce que financièrement, ils n'auront plus les moyens de le faire. Ils auront moins la possibilité d'ingérer dans la politique intérieure de ces pays, ce qui est par ailleurs une très bonne chose pour la paix dans le monde, puisqu'en fait, si ce terrorisme existe, il ne faut pas oublier qu'il est financé par des pays comme les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme Israël, qui financent un certain nombre d'organisations terroristes à travers le monde. Donc le monde sera beaucoup plus sûr quand ces pays-là seront en effondrement économique, puisqu'ils n'auront plus la possibilité d'ingérer dans ces pays, d'autant plus que les nouvelles générations qui vont arriver maintenant dans ces pays sont des générations qui vont avoir une histoire de ces 50 dernières années et de ces politiques étrangères menées par l'Occident dans leur propre pays. Donc je pense qu'ils verront les choses autrement et le monde occidental n'aura plus ses moyens matériels et financiers de pouvoir ingérer comme ils l'ont fait depuis un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose d'ailleurs que le monde occidental soit en faillite financière. C'est une très bonne chose pour la paix dans le monde. Quand on voit déjà sur le territoire français un grand nombre de bases militaires, qu'elles soient aériennes ou terriennes, eh bien, on a assisté depuis 20 ans à la fermeture d'un grand nombre de ces bases militaires. Tout ça pour des raisons budgétaires, bien évidemment. Donc, je vois pas vraiment comment la France aujourd'hui peut déployer une flotte en Méditerranée, sachant qu'on n'a plus les moyens d'acheter des pièces détachées pour des avions de chasse. Il faut savoir qu'un grand nombre d'avions de chasse en France sont cloués au sol par manque de pièces détachées, parce qu'on n'a plus les moyens de financer l'entretien de ces appareils. C'est la même chose pour la marine. La France annonçait la mise en chantier d'un deuxième porte-avions. Quand on connaît la situation financière en France, quand on voit le nombre de sans-domicile fixe et de gens qui crèvent de faim dans les rues, je trouve que c'est totalement insolent de faire ce genre d'annonce, sachant la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de Français. Aujourd'hui, on peut voir au Restons du cœur, le nombre de repas distribués, eh bien ce nombre de repas explose chaque jour davantage, puisqu'il y a des tas de gens en France qui n'arrivent plus à manger à leur faim, et on veut financer des opérations en Méditerranée. Non mais ça tient pas la route.
L'avenir que nous prépare l'OTAN. L'OTAN prépare l'avenir de l'Europe. Le secrétaire général Jens Stoltenberg a convoqué le 4 février en vidéoconférence étudiants et jeunes leaders des pays de l'Alliance Atlantique pour qu'ils proposent de nouvelles idées pour l'OTAN 2030. L'initiative entre dans l'implication croissante des universités et des écoles avec même un concours sur le thème « Quelles seront les plus grandes menaces contre la paix ?» et la sécurité en 2030 et comment l'OTAN devra-t-elle s'adapter pour les combattre. Pour traiter le sujet, les jeunes ont déjà un livre de texte, OTAN 2030, United for a New Era, le rapport présenté par le groupe de 10 experts nommés par le secrétaire général. Quelle est la nouvelle ère envisagée par le groupe d'experts? Après avoir défini l'Alliance comme l'alliance du plus grand succès de l'histoire, qui a mis fin à deux guerres, celle contre la Yougoslavie et la Libye que l'OTAN a au contraire déclenchée. Le rapport trace donc le cadre d'un monde caractérisé par des États autoritaires qui essayent d'étendre leur puissance et leur influence, lançant aux alliés OTAN un défi systémique dans tous les domaines de la sécurité et de l'économie. Renversant les faits, le rapport soutient que, tandis que l'OTAN a tendu amicalement la main à la Russie, celle-ci a répondu par l'agression dans l'ère euro-atlantique et violant les accords, a provoqué la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le FNI. La Russie, soulignent les 10 experts, est la principale menace que l'OTAN a devant elle dans cette décennie. En même temps, soutiennent-ils, l'OTAN a, face à elle, de croissants défis contre la sécurité posée par la Chine, dont les activités économiques et les technologies peuvent avoir un impact sur la défense collective et la préparation militaire dans l'ère de responsabilité du commandant suprême allié en Europe, qui est toujours, cela dit, un général états-unien nommé par le président des États-Unis lui-même. Après avoir lancé l'alarme sur ces menaces et quelques autres qui viendraient aussi du sud du monde, le rapport des 10 experts recommande de cimenter la centralité du lien transatlantique, c'est-à-dire le lien de l'Europe avec les États-Unis dans l'alliance sous commandement américain. Il recommande en même temps de renforcer le rôle politique de l'OTAN en soulignant que les alliés doivent renforcer le Conseil Atlantique Nord, le principal organe politique de l'Alliance qui se réunit au niveau des ministres de la Défense et ceux des Affaires étrangères et à celui des chefs d'État et de gouvernement. Comme selon les normes de l'OTAN, il ne prend pas ses décisions non pas à la majorité, mais toujours à l'unanimité et d'un commun accord, c'est-à-dire fondamentalement d'accord avec ce qui est décidé à Washington. Le renforcement ultérieur du Conseil Atlantique Nord signifie donc un affaiblissement ultérieur des parlements européens, notamment celui de l'Italie, déjà privé aujourd'hui de réels pouvoirs décisionnels en politique étrangère et même militaire. Dans ce cadre, le rapport propose de potentialiser les forces de l'OTAN, en particulier sur le flanc oriental, en les dotant de capacités militaires nucléaires adéquates, adaptées à la situation créée par la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires déchiré par les États-Unis. Autrement dit, les 10 experts demandent aux États-Unis d'accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les nouvelles bombes nucléaires B-61-12, mais aussi de nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée, analogues aux euromissiles des années 80. Ils demandent en particulier de poursuivre et revitaliser les accords de partage nucléaire qui permettent à des pays formellement non nucléaires, comme l'Italie, de se préparer à l'utilisation d'armes nucléaires sous commandement américain. Les 10 experts rappellent enfin qu'il est indispensable que tous les alliés tiennent l'engagement pris en 2014 d'augmenter d'ici 2024 leur propre défense militaire à au moins 2% de leur produit intérieur brut, ce qui signifie pour l'Italie de passer de 26 à 36 milliards d'euros annuels. Voilà le prix à payer par les citoyens européens pour profiter de ceux que le rapport définit comme les bénéfices dérivant d'être sous le parapluie de l'OTAN.
Thank you.